Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les libertés civiles sont sous pression en Turquie à la faveur des récents attentats à Istanbul et Ankara, mais aussi face aux risques séparatistes des provinces à majorité kurde. Le parti au pouvoir prend des mesures liberticides, ferme des journaux, emprisonne des journalistes ou des avocats, lève l'immunité de certains parlementaires. Et pour le moment, une frange majoritaire de la population le soutient. Dans ce numéro d'Orient Hebdo, on découvrira également un imam pas comme les autres en Turquie, prédicateur le jour, chanteur de rock la nuit. À suivre également la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Boutianti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Le moral des défenseurs des libertés publiques et en particulier de la liberté d'expression est au plus bas en Turquie. Chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles. Les saisies de journaux ou de télévisions d'opposition se succèdent, ainsi que les licenciements de nombreux journalistes et l'inculpation de certains d'entre eux pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est le cas de Can Dündar, le directeur de la publication du vénérable quotidien de centre-gauche Cumhuriyet. Et puis en septembre dernier, 180 intellectuels turcs, dont beaucoup avaient soutenu l'AKP à ses débuts, ont exprimé leur crainte qu'un gouvernement légitimement élu se transforme en dictature impitoyable. Peine perdue, même les injonctions de la Cour suprême n'y font rien. Au début du mois, c'est le grand quotidien Zaman qui a été saisi par le pouvoir et ses responsables limogés. Jana Jabour, bonjour.
Bonjour.
Docteur en sciences politiques et en relations internationales, professeur associé au laboratoire du CERI à Sciences Po Paris, enseignante également à l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Votre thèse porte sur la construction de la diplomatie émergente turque sous le parti de la justice et du développement, l'AKP. Alors, partagez-vous cette opinion quasi générale que les atteintes aux libertés sont de plus en plus nombreuses en Turquie?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on assiste véritablement à une dérive autoritaire en Turquie, je dirais même à une bonapartisation du pouvoir. Alors, on a tendance à imputer cela exclusivement à la personnalité du président, Recep Tayyip Erdogan, ou aussi au parti au pouvoir, donc le parti de la justice et du développement, l'AKP. Alors, moi, je pense qu'il s'agit là d'une lecture quelque peu simpliste et réductrice. Je pense qu'il faut placer cette dérive autoritaire du pouvoir dans un contexte beaucoup plus large. D'une part, je pense qu'il faut voir qu'il y a aujourd'hui une interconnexion très forte entre la rigidification du régime politique turc d'une part et d'autre part le contexte extérieur, le contexte régional dans lequel la Turquie s'insère. Aujourd'hui, la Turquie se sent encerclée à ses frontières. Elle se sent piégée dans la région et elle se sent encerclée ou faisant face à des ennemis régionaux, d'autant plus que sa politique de zéro problème avec les voisins s'est transformée en un zéro voisin sans problème. Et donc, ce sentiment d'insécurité aux frontières se traduit aujourd'hui par une crispation autoritaire à l'intérieur qui prend forme ou qui s'illustre concrètement par une chasse aux sorcières contre tous ceux qui sont considérés comme des ennemis de la nation, des ennemis de l'AKP, donc les journalistes libres et indépendants, donc certains segments des Kurdes ou aussi le mouvement Fethullah Gulen. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part aussi, il faut voir que cette rigidification du pouvoir est due aussi aux peurs que les Turcs ont face aux ambitions séparatistes des Kurdes. Je pense que dans l'imaginaire politique turc, on souffre de ce que j'appellerais le syndrome de Sèvres. C'est-à-dire que depuis la signature du traité de Sèvres en 1920, les Turcs se sentent menacés dans leur intégrité territoriale, puisque le traité de Sèvres, comme on le sait, a dépecé le territoire de l'Empire ottoman. Et depuis ce moment-là, les Turcs sentent qu'il y a un complot international pour diviser leur territoire. Et aujourd'hui, ce syndrome de Sèvres a été réactivé par le renforcement des Kurdes à la fois syriens et turcs et par la réactivation des ambitions séparatistes des Kurdes turcs, notamment du PKK.
Vous voulez dire que, en fait, depuis 2011 et donc les printemps arabes et ensuite ce qui a entraîné, par exemple, la situation en Syrie, cela a une incidence directe sur la politique intérieure en Turquie ?
Tout à fait. Aujourd'hui, on ne peut véritablement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Turquie sans remettre cela dans le contexte plus large de la crise syrienne. Comme je l'ai dit, la Turquie se sent menacée de partout. Elle sent qu'il y a énormément de défis qu'elle doit relever. Et donc, paradoxalement, cela se transforme en une chasse aux sorcières à l'intérieur du pays.
Pourtant, l'AKP est au pouvoir depuis une douzaine d'années maintenant. Or, la situation n'a finalement pas cessé de se dégrader. Qu'est-ce qui fait que la population turque aujourd'hui, les habitants d'Ankara ou d'Istanbul, sont toujours derrière l'AKP ?
Oui. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliqueraient cette résilience de l'AKP. D'une part, je crois que pour les Turcs, la sécurité est aujourd'hui une priorité. Et ils voient en l'AKP et en Recep Tayyip Erdogan, le président, la seule garantie d'un retour à la sécurité. Si vous voulez, les Turcs gardent une mémoire très sombre des années 80, où le pays était plongé dans une guerre civile. Et aujourd'hui, ils veulent prévenir justement cette guerre civile. Et paradoxalement, ils votent pour l'AKP parce qu'ils voient en l'AKP le seul garant d'un retour à la sécurité. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que si l'AKP n'est plus au pouvoir, on va retomber dans des gouvernements de coalition qui, par essence, sont des gouvernements instables et donc inefficaces, qui ne peuvent pas garantir justement ce retour à l'ordre et à la sécurité. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je pense que ce qui explique la résilience de l'AKP, c'est qu'aux yeux d'un très grand nombre de Turcs, le président Recep Tayyip Erdogan continue d'être vu comme légitime parce qu'il est le représentant des Turcs noirs, c'est-à-dire de toutes ces masses anatoliennes conservatrices qui ont longtemps été exclues et marginalisées par l'élite kémaliste au pouvoir. En fait, la force de l'AKP et de Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui, c'est qu'ils ont réussi à renverser le clivage centre-périphérie en Turquie. Tout au long du XXe siècle, depuis la fondation de la République turque en 1923, le système politique a été structuré autour d'un centre, représenté par les élites kémalistes, la bureaucratie kémaliste. Alors ce centre contrôlait les ressources et la vie politique. Et d'autre part, on avait une périphérie représentée par les masses anatoliennes conservatrices qui ne partageaient pas la doctrine kémaliste ou le credo kémaliste et qui étaient constamment stigmatisées, exclues et marginalisées. Aujourd'hui, la force de Recep Tayyip Erdogan, c'est qu'il est ou qu'il se pose justement comme le représentant de ces masses anatoliennes et qu'il a réussi à renverser ce clivage entre turc noir, turc blanc, entre centre et périphérie. Il a réussi à insérer l'AKP au centre de la vie politique turque.
Tellement au centre que finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de contre-pouvoir, visiblement.
Oui, en fait, l'AKP déjà est devenue une force hégémonique sur l'échiquier politique. Aujourd'hui, l'opposition semble être très faible est très peu organisée, et d'autre part l'armée, qui a toujours joué le rôle de contre-pouvoir, qui a toujours équilibré le gouvernement civil, et bien aujourd'hui l'armée est affaiblie, notamment après les procès de Ergenekon et de Balyoz, suite auxquels un très grand nombre de grands généraux de l'armée ont été renvoyés en prison.
Mais alors aujourd'hui, quelle place pour les minorités, à commencer par les Kurdes ?
En fait, on a tendance à oublier qu'entre 2008 et 2011, il y a eu un empowerment des Kurdes turcs à l'intérieur de leur pays. On a accordé aux Kurdes turcs un certain nombre de droits, notamment des droits intellectuels, comme par exemple le droit d'apprendre la langue turque dans les écoles et les universités, ou aussi on leur a aussi ouvert une chaîne télévisée TRT en langue kurde. Alors, ces avancées ont été couronnées par une déclaration faite par Abdullah Öcalan, le chef du PKK en 2010, qui a dit que finalement on va abandonner l'usage des armes et on va recourir plutôt à la voie politique puisque l'AKP nous a véritablement concédé des droits. Tout cela a changé à partir de 2011 avec le début ou le déclenchement des révolutions arabes et de la révolution syrienne. En fait, les Kurdes ont vu en la révolution syrienne une fenêtre d'opportunité pour s'affirmer de plus en plus et pour réaliser le rêve d'un Kurdistan autonome et indépendant dont ils ont toujours rêvé depuis la fin de l'Empire ottoman et le traité de Sykes-Picot. Aujourd'hui, en Turquie, il y a une véritable polarisation, turc contre kurde. Cette polarisation devient de plus en plus affirmée avec la reprise de la violence armée entre le PKK et l'armée turque. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que le HDP, donc le parti pro-kurde au Parlement, s'est distancié du PKK. Donc ça, c'est un très bon geste qui, justement, permettait d'éviter la guerre civile. Maintenant, reste à voir que l'AKP ne croit pas les intentions, les bonnes intentions du HDP. Et comme on l'a vu il y a quelques jours, on a retiré l'immunité aux parlementaires du HDP parce qu'on les accuse de soutenir indirectement et implicitement le PKK.
Mais est-ce que c'est cette menace, ce risque d'éventuelle partition, en tout cas retrait du territoire turc, de tout l'espace kurde, qui fait qu'aujourd'hui le gouvernement de M. Erdogan vise d'abord et avant tout les Kurdes lorsqu'il y a un attentat, comme on l'a vu récemment à Istanbul?
Oui, alors il y a deux choses à voir. D'une part, effectivement, l'AKP est hanté par cette peur des ambitions séparatistes kurdes, ce qui fait qu'aujourd'hui on mène une véritable répression, une véritable guerre contre le PKK, ça c'est d'une part, mais d'autre part on pointe du doigt le PKK quand il y a des attentats en Turquie, parce que des fois la technique utilisée justement renvoie aux méthodes du PKK, comme on l'a vu dans les attentats de février et de mars à Ankara. On a utilisé d'une part des voitures piégées, et ça c'est la technique typique du PKK, alors que de l'autre côté le Daesh utilise justement autre chose, ça veut dire des attentats suicides. Ce qui permet de dire que c'est le PKK qui a commis ces attentats, c'est justement que ce qui était visé, c'est Ankara. Et Ankara, c'est le centre politique, la capitale politique du pays. Lors du dernier attentat, c'est la place Kızılay qui a été visée. La place Kızılay est une place très centrale à Ankara et c'est là où se situe le siège des grands ministères. Donc il y avait là un message implicite à la République turque, comme quoi, voilà, nous menons une guerre violente contre l'État turc et tous les symboles de l'État turc.
Merci Jana Jabour. Je rappelle que vous êtes enseignante en relations internationales à Sciences Po Paris et à Beyrouth, spécialiste de la diplomatie de la Turquie.
Merci.
Orient Hebdo sur RFI.
Ahmed Mussin n'est pas un imam comme les autres. Prédicateur le jour dans sa mosquée du village côtier de Pinarbassi, en Turquie, il chante la nuit venue dans un groupe de rock, Firok. De quoi s'attirer les foudres des autorités religieuses de son pays, tout en déclenchant l'enthousiasme de ses fans. Come to God est son morceau le plus connu.
Ne de isimler çiçeksiz bahçeyi neyle gül sevgiyle donanmış kalp değil ben her şeyi senden bildim gözyaşımı sildi gözyaşımı nurunla sildi.
L'imam chanteur Ahmed Mussin.
Pour nous écrire orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, les attentats de Bruxelles retiennent évidemment l'attention des éditorialistes de la presse arabe.
Oui, et des éditorialistes qui sont convaincus, dans leur majorité, que l'Europe ne fait pas vraiment ce qu'il faut pour combattre le terrorisme inspiré par le groupe État islamique, Daesh, selon son acronyme arabe. Alors ils estiment que beaucoup de déclarations et de positions européennes, comme « c'est la guerre » du Premier ministre français Manuel Valls, favorise le concept de guerre des civilisations, un concept d'autant plus inadéquat selon eux que Daesh a tué beaucoup plus de musulmans en Syrie et en Irak que elle ne l'a fait à Bruxelles ou à Paris. Une attitude qui ne fait que servir Daesh, qui a beau jeu de surfer sur la vague de frustration des musulmans qui se sont toujours montrés du doigt par l'Occident, alors qu'ils sont les principales victimes des djihadistes.
Alors Michel, en Israël aussi, ces attentats font couler beaucoup d'encre.
Absolument. Europanique, titre Yediot Aharonot. L'Europe est qualifiée de continent de la terreur. Ses responsables sont accusés de s'enfoncer la tête dans le sable. Pour Mariv, c'est l'ère du djihad qui s'est ouverte. Un spécialiste de la sécurité écrit que l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv ne compte pas moins de 11 points de contrôle jusque l'embarquement des passagers. Les Européens ont beaucoup à apprendre, souligne un chroniqueur. Les journaux rappellent la petite phrase du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui, dans une conférence de presse, affirmait que c'est une bataille mondiale contre le terrorisme qui s'ouvre, et aux côtés d'une caricature représentant le chef du gouvernement israélien en Superman, une éditorialiste le qualifie de « professeur de terrorisme ». Que voulons-nous démontrer ? Que nous avons réussi à juguler le terrorisme chez nous ? Demande-t-elle avec une pointe de sarcasme. Haaretz titre sur le fait que les services de renseignement belges avaient reçu des informations très précise sur les attentats de Bruxelles. Et aussi, Eric, le ministre israélien des Transports, Israël Katz, est critiqué pour avoir affirmé que les Belges devraient manger moins de chocolat et se préoccuper plus de la lutte contre le terrorisme.
Alors Michel, un incident à Hébron retient également tout particulièrement l'attention.
Oui, c'est le sujet qui fait la une de la presse israélienne de ce week-end et relance le débat sur la réaction des forces de sécurité israéliennes face à la vague de violence de ces derniers mois. Un film vidéo montre un soldat qui tire et achève d'une balle dans la tête un assaillant palestinien alors que celui-ci est déjà neutralisé, selon le terme utilisé en Israël. Ce n'est pas le reflet de la réalité, affirme un commentateur du Yediot Aharonot, tandis qu'un de ses confrères redoute que cet incident, tel un baril de poudre, ne provoque une nouvelle escalade de la violence. Pour Maariv, c'est une guerre des valeurs. Israël est au bas de la pente, écrit un chroniqueur, et plusieurs quotidiens citent l'ancien ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. Mieux vaut un soldat qui commet une erreur qu'un soldat mort.
Compétition des candidats à la présidence américaine pour le soutien d'Israël. Alexandre, c'est un éditorial du diplomate et journaliste Clovis Maksoud.
Oui, et celui qui a été durant plus d'une décennie l'ambassadeur de la Ligue arabe à l'ONU et aux États-Unis en veut pour preuve les discours des candidats favoris, Hillary Clinton pour les démocrates et Donald Trump pour les républicains, devant l'EPAC, le comité américano-israélien pour les affaires publiques. Selon Maksoud, les deux candidats ont rivalisé de promesses concernant la sécurité d'Israël, s'ils étaient élus, et les critiques à l'égard des Palestiniens, renvoyant dos à dos le Fatah et le Hamas. Maksoud explique cette attitude par la puissance du lobby pro-israélien, surtout quand il s'agit de financer les élections, qu'elles soient présidentielles ou parlementaires. Il conclut par un appel aux Arabes américains afin qu'ils constituent eux aussi un groupe de pression qui apporte son soutien à la cause palestinienne.
Et puis une polémique encore, Alexandre, dans la presse égyptienne autour d'un procès contre des ONG de défense des droits de l'homme.
Oui, un procès qui vient d'être rouvert par la justice égyptienne alors que on le pensait classé depuis 2012. À l'époque, le Conseil suprême des forces armées dirigeait l'Égypte et une ministre avait accusé des ONG de défense des droits de l'homme d'être un cheval de Troie utilisé par l'Occident pour s'ingérer dans les affaires égyptiennes. De nombreuses ONG avaient été accusées d'avoir obtenu des financements illicites des États-Unis, mais aussi de l'Europe occidentale. Le procès a démarré avec tambour et trompette, puis s'est progressivement noyé dans les méandres judiciaires. Et la reprise du procès aujourd'hui est justifiée par le journal Al-Watan qui consacre un long reportage à ce qu'il qualifie de financement étranger d'ONG pour soutenir les frères musulmans, tandis que le journal Al-Masri Al-Youm, lui, parle d'une chasse aux sorcières qui vaut à l'Égypte une tempête de condamnation internationale.
Michel Paul, encore un sondage qui a attiré votre attention cette semaine.
Baisse du taux de popularité du Premier ministre israélien et hausse pour son ministre de la Défense, Moshe Yalon. Désormais, Eric, le personnage le plus populaire, d'après ce sondage du moins, est le chef d'état-major, le général Gadi Eisenkot, qui a émis des vues plus modérées, notamment sur la façon de réagir à la vague de violence. Et c'est un autre général de réserve, celui-là, ancien chef d'état-major également, qui pourrait bouleverser la donne si Gabi Ashkenazi se présentait aux élections à la tête d'un nouveau parti, eh bien, il serait le seul à pouvoir renverser Benjamin Netanyahu.
Allez, pour conclure, Michel, votre photo du jour.
Eh bien, c'est la fête de Pourim, le carnaval juif. Et savez-vous, Eric, quel est le déguisement le plus populaire cette année en Israël ? C'est celui de Donald Trump.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain. Tout de suite sur RFI, un nouveau point sur l'actualité.